Interrogeons-nous sur nos addictions avec Jennifer Martin, psychologue clinicienne sur Périgueux, dans Discussion sur l'addiction.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur RLP, Radio Libre en Périgord sur 102.3. Je suis Jennifer Martin, psychologue clinicienne en libéral sur Périgueux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode 5 de notre chronique radiophonique sur l'addiction. Nous enregistrons dans les studios de Cluny-Chamier en ce 16 décembre 2024. Dans quelques jours, le solstice d'hiver signera le début de l'augmentation de l'ensoleillement quotidien et marquera aussi l'arrivée, quelques jours plus tard, des fameuses fêtes de fin d'année. Synonyme pour certains de retrouvailles familiales, de partage et d'abondance, elles sont pour d'autres signes de solitude, de mauvais souvenirs, d'ennuis, de peurs anticipatoires, de situations difficiles liées à la présence d'alcool sur la table et tout autour. Elles sont aussi, chaque année, l'occasion de premières expériences de consommation d'alcool de certains jeunes. Cette année, tu peux trinquer avec nous. Oh, le fond d'un verre, c'est pas grand-chose. Tu es un homme, maintenant. Autant de phrases qui nous paraissent anodines et qui le sont pourtant si peu. L'alcool initiatique, qui rappelle certains rites de passage et qui joue de façon implicite, inconsciente, un rôle sur l'avenir des consommations d'alcool, de l'adulte en devenir. Que ceux qui encouragent à la consommation introduisent par cette proposition dans le cercle des grands. Adultes, nous-mêmes influencés par notre propre éducation, culture, société et par la place donnée à l'alcool dans notre système familial et sociétal depuis nos plus jeunes années. Chaque année, la période des fêtes génère une grande variété d'états d'âme chez chacun d'entre nous. Enthousiasme chez certains, morosité chez d'autres. Impossible d'y échapper. Les médias, les affiches, les décorations et sapins de Noël, les Pères Noël aux fenêtres et guirlandes dans les jardins nous rappellent chaque jour un compte à rebours. Ce qui nous conditionne, nous influence, nous pousse à consommer, en cette période particulière, comme dans d'autres de l'année, c'est le marketing et la publicité. Sans jugement aucun, ni positionnement moral, c'est sur cette influence que je nous invite à réfléchir aujourd'hui. En France, l'alcool est partout. Souvent. La loi Evin de 1991, qui encadrait strictement les publicités pour les boissons alcoolisées, dont vin compris, s'est petit à petit retrouvée grignotée par certains amendements autorisant des publicités ne respectant pas l'esprit initial de la loi, qui, pour rappel, était d'interdire les supports publicitaires qui s'imposent à tous, et en particulier aux plus jeunes. Elle n'autorisait pas la publicité d'alcool ou uniquement à des fins purement informatives et dans des médias généralistes. Il n'était pas question à cet endroit-là de pouvoir inciter à la consommation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec Internet notamment, n'importe quelle personne, enfant compris, naviguant sur Internet, peut se retrouver nez à nez, et ce de façon répétée, avec une publicité vantant les mérites d'une marque de bière désaltérante, par exemple. Nous évoquions lors du premier épisode la place prépondérante de l'influence dans nos choix quotidiens et la façon dont les messages subliminaux ou plus directs véhiculés par les publicités et personnages publics conditionnent nos comportements et choix de consommation, qu'ils soient conscients ou non. Et le public jeune est une cible parfaite pour le marketing de cette filière. Les jeunes testeurs d'aujourd'hui sont les potentiels consommateurs quotidiens de demain. Les filières alcool et tabac l'ont d'ailleurs très bien compris, et ce, depuis bien longtemps. Les marques et fabricants attirent les jeunes avec les prémix, ces cocktails prêts à boire, mélanges d'alcool et boissons sucrées, soda ou jus de fruits. Même chose avec les bières aromatisées. Ces mélanges permettant de couvrir le goût fort de l'alcool, qui passe mieux et qui appelle le consommateur à y revenir. Ce qui ne serait sûrement pas le cas avec un verre d'alcool pur. L'alcool donne donc du plaisir, a un effet euphorisant, modifie le comportement. Il diminue les peurs et inquiétudes, désinhibe et fait partir de façon illusoire la timidité. Et il est toxique pour l'organisme. Oui, toxique pour le cerveau des jeunes qui n'a pas encore atteint sa maturité et qui est particulièrement vulnérable face aux prises de substances. L'influence, c'est aussi au travers des influenceurs que les jeunes d'aujourd'hui la subissent. Les réseaux sociaux. Dans son rapport Promotion de l'alcool, les réseaux sociaux, un nouveau Far West, l'association Addiction France révèle avoir analysé pendant près de 3 ans plus de 11 300 contenus sur les réseaux, valorisant l'alcool. Publications, posts et stories compris. Concernant plus de 800 marques d'alcool et 483 influenceurs. La loi du 9 juin 2023, encadrant l'activité des influenceurs, n'a pas interdit le marketing de l'alcool sur les réseaux sociaux. Selon l'association Addiction France toujours, les réseaux sociaux continuent d'être une zone de non-droit. Les jeunes sont donc exposés massivement à des contenus valorisant l'alcool. Et pourtant, l'étude de l'École des hautes études en santé publique nous révèle que 79% des 15-21 ans déclarent voir des publicités toutes les semaines sur les réseaux sociaux concernant l'alcool. Selon l'OFDT, Observatoire français des drogues et toxicomanie, 23% des jeunes interrogés avouent que ces publicités sur les réseaux sociaux leur ont donné envie de boire. Dans la deuxième édition de l'enquête En classe, réalisée en 2022 auprès de 9500 collégiens et lycéens, nous apprenons que l'âge des premières expérimentations de consommation recule, malgré le fait que ces premières consommations continuent de s'amorcer dans les premières années du collège. Cette enquête révèle que l'alcool reste la substance psychoactive la plus couramment expérimentée et consommée par les adolescents. En sixième, 26,9% des élèves déclarent avoir déjà consommé de l'alcool. Ce qui revient à dire que dans une classe de 30, ce sont près de 8 élèves âgés de 10 à 11 ans qui ont déjà bu de l'alcool, dont certains dès l'école primaire. En terminale, les résultats atteignent 73,9%, soit quasiment 22 élèves sur 30. Cette progression de la consommation d'alcool au cours de l'adolescence est remarquable. Et elle interroge forcément sur les causes, les conséquences et les moyens de la prévenir. Car pour certains adolescents, la soirée arrosée n'aura que peu de conséquences, vomissements et gueules de bois tout au plus pour l'expérience. Mais comme le rappelle la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, pour d'autres, ce sont coma éthylique, comportement violent subi ou agi, accident de la route ou rapport sexuel non consenti qui peuvent accompagner ces usages. Ces premières consommations, rares et ponctuelles, peuvent donner naissance à une consommation régulière, porte d'entrée à des alcoolisations ponctuelles importantes, les API, 6 verres en moins de 2 heures, et au développement, peut-être plus tardif, peut-être plus rapidement, d'une dépendance. Mon propos n'a pas pour objectif de jouer les troubles fêtes en cette période de fin d'année. Au contraire, il a celui d'aider à prévenir ces événements qui n'arrivent pas qu'aux autres et dont j'ai si souvent entendu les récits dans mon cabinet par des personnes envahies de remords et de regrets. Alors à toi, jeune auditeur, je t'invite à t'interroger sur les bienfaits de ta consommation d'alcool, sur ce qu'elle t'apporte, et de la comparer aux risques qu'elle peut te faire prendre, ainsi qu'aux conséquences sur l'instant et plus tard, que ce soit sur ta santé, ton bien-être, ta scolarité ou tes relations avec les autres. À vous, adultes, parents, proches, oncles ou tantes, grands-parents, amis de la famille, quelle est la position, le discours, le comportement que vous souhaitez tenir face à cet ado dans la famille pendant les fêtes? Comment vous impliquer dans une démarche de débanalisation de l'alcool auprès des jeunes qui vous entourent? Si alcool il y a, alors avant la fête, on peut décider d'un certain nombre de choses. On peut décider déjà de limiter sa propre consommation. On peut, entre chaque verre d'alcool, alterner avec de l'eau, des boissons sans alcool, manger aussi. On peut, pendant la fête, faire attention à ceux qui nous entourent. On peut faire attention à ne pas inciter à la consommation. On peut faire attention à ne pas insister face à un non. On peut enfin être vigilant à ce que ceux qui n'ont bu ne reprennent pas le volant. Afin de leur éviter, à eux, conducteurs, ainsi qu'à d'autres potentiels conducteurs sur la route, d'avoir un accident. Nous avons vu précédemment que l'addiction, c'est une maladie de la décision. Comment alors je peux mettre de la conscience sur ma consommation ? Je peux différer en mettant du mouvement, en allant marcher, en allant danser, en mettant entre ma consommation et moi un petit temps. Un temps de respiration, un temps de conscientisation pour garder le contrôle et la maîtrise de ma consommation. Pour terminer cette émission, je vous propose de vous interroger sur votre consommation en vous demandant en amont quelle est la limite de consommation que je ne veux pas dépasser. C'est avec cette invitation à réfléchir et à maîtriser sa consommation d'alcool que notre épisode s'achève. Pour me contacter, c'est au 33 boulevard Georges Saumande sur Périgueux, à mon cabinet L'Espace Rainbow. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'exploration des mécaniques de l'addiction qui tentera en toute humilité d'éclairer un peu plus nos zones d'ombre.